Alors bonjour messieurs, bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Ah ok, bon, on en a peut-être une. Toujours ma femme, non?
Running gag.
Non, mais elle a écouté la dernière fois 2 minutes, j'ai entendu, mais pas plus. Donc, bienvenue.
Oui, c'est bien, c'est déjà ça, parce que la mienne, elle me demandait encore, mais qu'est-ce que tu vas foutre à t'enfermer quand il fait beau comme ça, à délirer, je vous entends rigoler comme des bossus. Tu peux pas comprendre, femme, c'est un truc d'informaticien.
Ça va, c'est sûr que ça va augmenter notre...
notre audimat.
Alors, donc, on est passé au podcast 2 plus 1, on est 3, ben, 3 plus 1, jamais
4.
3 sans 4, ouais, magnifique, on a fait au moins 4. Au sommaire du jour, plein de petits points et des discussions philosophiques. Alors, d'abord, le parking par SMS, d'après Marc, ça pue.
Je peux confirmer, j'ai testé aujourd'hui, ça marche. Pas, on s'est pris une prune avec, magnifique.
On en reparle tout de suite.
Ouais.
Alors, les extensions de garantie, arnaque du siècle ou pas, les évolutions des mobiles vis-à-vis des recettes des opérateurs, c'est un grand problème. Ou pas.
C'est un grand problème, on y reviendra.
Des prochaines années. Onicombe en pratique, donc on a pu tester.
Oui, bon, tu peux dire, t'as craqué pour une tablette Acer.
C'est dur, oui.
Et t'es jaloux de mon iPad en fait, et voilà, quoi, il n'a pas su attendre.
Et puis on a encore pas mal de petits points. Sony, un petit peu de YouTube, Nokia et autres, on verra suivant le timing. On commence par le parking. Le parking, ça pue?
Alors, le parking, ça pue. Je peux peut-être raconter la petite histoire. Donc, j'étais tout à l'heure en ville et en bon geek, moi, je privilégie les endroits où je peux me parquer et payer par SMS. Donc, avec le fameux petit système qui était développé par Pingping et qui est marketé sous la marque 4411. Donc, comme à mon habitude, parce que j'ai déjà utilisé le système un certain nombre de fois, je me gare bien précautionneusement. J'envoie mon petit SMS avec mon numéro de plaque et le numéro de la borne. Et je mets mon GSM en poche et je n'y fais plus attention. Et je ne sais pas pourquoi, un quart d'heure après, par acquis de conscience, je regarde mon GSM. Et là, je vois que j'ai reçu un SMS qui me dit... Alors, je récupère le SMS en question parce que je l'ai quand même gardé. Qui me dit... erreur, refusé, votre dernière session de parking n'a pu être payée via votre GSM. Enregistrez-vous d'abord sur 4411.be pour réutiliser ce service. Alors, évidemment, je vous laisse imaginer le temps que je retourne jusqu'à ma voiture pour mettre de l'argent sonnant et trébuchant.
Game over.
Eh ben, game over, j'avais un papillon. Alors, moi, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que on a un système qui est censé être utilisable, mais par Madame Pichemou, on va dire. Et Madame Pichemou, elle va pas forcément comprendre que pour pouvoir payer avec son GSM en envoyant un simple SMS qui est déjà facturé 15 cents, le système va lui demander d'abord de lui se créer un compte sur Internet, alors qu'elle n'a pas forcément Internet, de devoir envoyer une demande de mot de passe pour créer son compte, toujours avec le SMS payant à 15 cents, et puis il y a toute une procédure où il faut revalider l'adresse email qu'on a utilisée, etc., etc.
Donc, c'est lourd, en fait, parce qu'avant, il me semblait que ils avaient eu des accords avec certains opérateurs et que c'était déduit de ta facture automatiquement.
Mais c'est ce qui est arrivé déjà jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je ne comprends pas très bien le changement de système. Lorsqu'on a eu l'occasion de l'utiliser, lorsqu'on était à deux, qu'on était allé voir, je ne sais plus, la conférence d'Adobe, par exemple, à Anvers, on a utilisé le système pour payer le stationnement, et effectivement, quelques semaines plus tard, le montant du stationnement avait été déduit de ma facture Proximus directement, ce qui est beaucoup plus simple. Ici, on a une procédure. J'ai essayé pour le jeu de la faire sur iPhone avec une connexion 3G. Déjà 2 fois sur 3, le SMS renvoyé par 4411 pour valider le mot de passe utilisé pour créer le compte foire. Donc, le temps qu'on le fasse, on a déjà sa prune. Donc, voilà. Il y a un sacré perfectionnement à faire.
Il y a des explications sur le site où effectivement on peut envoyer un SMS passe fait pour avoir le mot de passe. Enfin, ça a l'air long et périlleux. Ça risque de méchamment faire mal au système si c'est plus automatique dans les factures en tout cas. Mais si quelqu'un s'est pris une prune, enfin ça c'est tant pis pour lui. Hein. Mais à plus d'infos de pourquoi c'était, pourquoi c'est plus, où est-ce qu'on a vraiment bu, partagez l'info et on en reparlera la prochaine fois.
Mais je crois qu'on n'est pas les seuls. On connaît au moins une personne qui a eu exactement le même message que moi.
Oui, tout à fait. Mais voilà, si quelqu'un a une confirmation. Un autre petit sujet, tant qu'on est dans les mobiles, on parle quand même beaucoup de mobiles, hein.
Oui,
C'est que
effectivement, le fait que les opérateurs commencent à craindre un tassement, si pas une régression des revenus liés aux opérateurs voice,
Oui,
aux
tout à
appels
fait. Alors en
voice.
fait, on apprenait cette semaine que
KPN?
KPN s'est pris des très mauvais résultats, enfin très mauvais, c'est toujours avec des pincettes, mais en tout cas en Hollande, et que du coup, ben, pour garder ses actionnaires contents, il allait balancer 4 à 5 000 salariés. D'ailleurs, pour le moment, c'est un petit peu la foire au licenciement de nouveau.
Oui, effectivement, Nokia, tout ça.
Ouais,
Enfin,
on
Nokia, on aura
arrive
l'occasion
d'en reparler.
d'y
Ouais, mais
revenir, oui.
on est toujours en début d'année, on annonce nos résultats, nos actionnaires sont pas contents, on doit les licencier, enfin c'est la mauvaise période pour les pauvres petits employés. Mais bref, KPN licencie, pourquoi? Parce qu'en fait, ils expliquent leur problème parce que les utilisateurs utilisent de plus en plus des applications sur leur smartphone, et à la place d'utiliser le service vocal, voire même les SMS, parce que certaines applications permettent de faire des échanges de messages, ben, soit Facebook ou d'autres applications alternatives pour envoi email, ou même message instantané entre utilisateurs. Mais du coup,
Absolument.
ils ont leur abonnement data, c'est une chose, et l'abonnement voice, qui est quand même assez rémunérateur, et les SMS, ça descend pas mal, et ils ont perdu quand même, si je ne me trompe, ils ont perdu en 2011 1,3% de son chiffre d'affaires. Bah, ça paraît pas grand-chose.
Mais c'est un tassement qui risque de faire mal à la longue si la tendance se confirme. Maintenant, bon, ça c'est un truc qu'on peut mettre en parallèle avec une autre news qui peut-être comme ça n'a l'air de rien,
Ouais, je vais
mais
juste
qu'on peut
terminer
certes. Oui, vas-y, vas-y.
sur les braves télécoms flamands. C'est qu'en fait, nos braves hollandais, ils ont un marché qui est un petit peu particulier par rapport au reste de l'Europe, que le reste de l'Europe est encore en train de progresser sur tout le secteur voice et SMS. C'est qu'au niveau hollandais, ils ont une très grosse pénétration des smartphones. C'est-à-dire que d'après les stats, ils ont plus de 42% des utilisateurs d'offres prépayées et 51% des abonnements qui ont des smartphones. Donc c'est quasi une personne sur deux dans toute la Hollande qui a un smartphone. Donc bon, on est très loin dans le reste de l'Europe.
Oui, effectivement, le seul marché similaire, encore là, avec une échelle beaucoup plus importante, c'est le marché asiatique. Et donc pour revenir à ce qu'on disait, là où il y a un moyen de faire un parallèle assez amusant, c'est là où on voit par exemple que des opérateurs américains commencent à de manière relativement agressive, bloquer les possibilités de wireless tethering sur la gamme
Alors,
Android.
comme faisait le petit Brice à l'époque sur Cybercafé, ding 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 ding, c'est quoi le tethering?
Alors, le tethering, c'est quoi? Eh ben, imaginez que vous êtes dans le fin fond du trou du cul du monde avec votre magnifique laptop Wi-Fi de la mort qui tue,
J'y
et
suis,
vous
j'y
n'avez pas de
suis.
Wi-Fi. Non, toi, t'es pas dans le fin fond de la trou du cul du monde, t'es dans ton studio. Ah, c'est peut-être là aussi. Mais donc, toujours est-il que vous n'avez pas de Wi-Fi, mais vous avez un GSM. Et vous avez un accès 3G. Eh ben, le tethering, c'est une petite
Ouais, mais
fonctionnalité bien
si vous
pratique.
avez de la 3G au trou du cul du monde, faites-moi signe.
Oui, ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, que ce soit de la 3G, du Edge ou même du Bed GPRS pourri, le tethering, c'est une petite fonctionnalité vachement pratique qui va vous permettre de partager la connexion data de votre GSM avec votre magnifique laptop. Alors ça se fait via une petite fonction embarquée dans l'OS de base, comme généralement c'est le cas en Android.
Du tout, du
Ça se
tout.
fait... Non?
C'est pas de base. C'est
Ah,
pour
je
pouvoir y
pensais, tiens,
accéder
ça
sur
m'étonne.
Android, on est obligé de router sa machine pour pouvoir installer quelques petites applications qui ne fonctionnent qu'en route. Donc c'est une des raisons pour laquelle
On route mon
on
Android.
route encore les machines Android, parce que sinon on y installe quasi ce qu'on veut, mais là on a besoin des droits superviseurs pour accéder
Bon, en gros,
au
c'est
code.
aussi une des raisons pour lesquelles on jailbreak l'iPhone, c'est que ça permet d'installer un petit package qui est vachement sympa, qui s'appelle MyWii, qui permet donc de partager sa liaison data smartphone en Bluetooth, en USB, en Wi-Fi, à pédale ou tout ce que vous voulez. Quoique maintenant, la fonctionnalité a été officiellement introduite par Apple dans la version 4.3 d'iOS. Avec comme sérieux bémol que certains opérateurs historiques belges, suivez mon regard, ont déjà sérieusement envisagé de bloquer l'accès à cette fonctionnalité. Alors la question évidemment c'est pourquoi ils sont tellement méchants les gens?
Ça
En
paraît
fait c'est pas
con, mais enfin,
ça paraît con mais
moi je
pourquoi?
comprenais pas, hein, donc c'est ouais, hier soir je relisais ces articles, je me dis Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on bloque cette application? Pourquoi c'est pas de base? Et je questionnais mon brave Marc sur mais pourquoi, Marc? Tu dois bien le savoir. Et effectivement, Marc a trouvé une idée, enfin
Une
une
explication.
explication tout à fait rationnelle.
Et donc en fait l'explication, elle est toute simple. Si vous vous rappelez au temps héroïque des premiers abonnements ADSL, on va parler de Belgacom, parce que c'était là que c'était le plus visible, Belgacom en fait avait bidouillé honteusement le firmware de ses Bbox première génération pour empêcher...
Vous le faites encore et
Vous le
certains
faites
autres
encore, oui.
opérateurs.
Mais en fait, il bidouillait honteusement le firmware de certains de ses appareils, de ses routeurs, modem routeurs, pour éviter que l'on puisse physiquement connecter plus de 4 machines en Wi-Fi. Et en fait, la limitation qui est imposée par ces opérateurs au niveau du tethering, c'est la même. Ils considèrent qu'à partir du moment où vous avez un abonnement pour un appareil, vous pouvez l'utiliser que sur cet appareil-là. Vous avez un laptop, un smartphone, un PC, une PlayStation, une Wii ou une cafetière à réaction, on s'en fout, ou un lave-vaisselle 3D Wi-Fi, ben ça fait autant d'abonnements que vous devez payer. Et c'est simplement, de nouveau, un modèle économique. Et là, de nouveau, on revient vers le parallèle qu'on a fait dans les 2 derniers podcasts avec le modèle de paiement récurrent et les abonnements. Mais voilà, faut pas leur en vouloir, les gars. Ils ont compris que c'était un
Oh
modèle
si, il faut
économique
leur en
qui marche
vouloir, c'est
bien.
du vol, qualifié.
Oui, c'est du vol qualifié, mais bon, dans l'absolu, ça ne sera de nouveau pénalisable que pour Madame Pichemou qui va pas comprendre pourquoi ou même pas comment elle peut faire pour jailbreaker son iPhone ou router son Android, pour autant même qu'elle en ait un. Donc tu vois, on va de nouveau se retrouver ici dans un modèle où ceux qui sauront s'en débarrasser, bah, ils n'auront aucun
Ils
problème.
le feront comme on le faisait. C'est un peu comme à l'époque des premiers smartphones. Je me rappelle de mon tout premier HTC Cruise qui avait moyen de faire tourner tout ce qu'on voulait comme application. Effectivement, j'avais déjà un abonnement data. Il avait même la petite webcam frontale. Et en fait, si on voulait essayer de faire du voice avec, voice over IP évidemment, c'était loin d'être efficace parce qu'on ne pouvait pas utiliser le même haut-parleur et il y avait pas mal de blocages dans l'OS pour éviter que on essaye de téléphoner d'une autre manière que comme tout le monde parce que si on téléphone en voice over IP, on ne téléphone pas à je ne sais combien d'euros la minute et
Ben non,
c'est
on
pas du tout
téléphone,
intéressant.
voilà, de Skype à Skype ou de Viber à Viber ou d'autres n'importe quel client SIP compatible. Ben oui, c'est peanuts. Et effectivement, on a un abonnement data et ça permet de faire passer absolument tout. SMS, mail, appel voice et souvent avec des qualités qui parfois sont même supérieures à celles du réseau voice normal. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on irait se gêner? On a peut-être l'impression qu'en fait les opérateurs télécoms sont en train de se retrouver devant le même dilemme que celui où se
Les
trouvent
opérateurs
aujourd'hui les
data.
opérateurs data. Et voilà, ils vont devoir soit être assez souples pour pouvoir trouver un modèle économique qui leur rapporte encore assez de fric, tout en permettant une beaucoup plus grande souplesse et des économies certaines à leurs utilisateurs. Ou alors ça va être comme les maisons de disques, elles vont pas du tout savoir prendre le
Ouais, mais
virage et elles vont se crasher lamentablement.
il y a encore largement de la place en fait. Quand on voit ce qu'ils arrivent à nous, bon, ce que ça coûte le SMS et ce que réellement ils facturent, bon, mais
Oui,
c'est
effectivement.
incroyable ce qu'ils font comme marge. Mais
Mais justement,
après.
d'ailleurs, à ce niveau, je voudrais saluer la performance et l'audace de l'opérateur alternatif, le MVNO, pardon,
C'est juste justement, j'allais en
Mobile
parler.
Viking,
Eh ben
qui vient de lancer, qui vient de
oui,
ramener le
j'allais en
coût.
parler, mais toi tu trouves ça magnifique et en fait c'est pour moi c'est juste de la propagande, une bonne publicité. Bon, on en a parlé, on en a fait une news parce qu'effectivement c'est le premier à essayer de descendre le prix.
Mais
Mais
c'est
qu'est-ce
bien,
qui
quoi, franchement.
Oui, c'est bien parce que à l'époque j'avais été en Espagne, j'étais sur un Mobistar à l'époque et j'avais honteusement osé activer le data pour voir mes mails, j'ai pris en tout, je me souviens plus, quelque chose comme 20 ou 30 mégas, compté que ça m'a coûté 5 € le méga, je suis rentré ici, j'ai vu la facture, ça m'a fait un deuxième trou du cul.
Tu te rappelles quand on est allé au salon carte, j'ai laissé malencontreusement mon data allumé, je me suis pris pour 120 € rien que sur la journée, quoi,
Tout à
en n'ayant
fait.
rien fait du tout.
Mais alors, le fait est qu'en fait, tous les gens qui vont en vacances, en Espagne en tout cas, mais dans les autres pays, en France, et ça doit être plus ou moins pareil pour le reste de l'Europe, quand vous allez en Espagne, vous avez plein d'opérateurs locaux, donc Vodafone, Carrefour qui s'est lancé cette année-ci apparemment aussi. Donc tous ces opérateurs proposent, contrairement à la Belgique, des abonnements mensuels ou à la journée. C'est-à-dire que maintenant il existe en Espagne un abonnement à la journée où on paye 1 euro, on est en 3G à fond de balle, on a droit à 100 mégas, et dès qu'on a dépassé 100 mégas sur la journée, on est ramené à 196K. Bon, 196K en mobile illimité sur la journée, c'est quand même toujours vachement sympa. Donc pour 1 euro pour la journée, c'est assez ridicule. Vous faites 1 euro pour plus de 100 mégas. On compte même pas après si vous avez dépassé, compte 50 cents par mégaoctet de la super offre magnifique que Mobile Viking réduit le roaming. Alors je suis désolé, 50 cents pour 1 euro.
D'accord. Mais ce n'est pas du marché local. Il faut pas oublier qu'en Belgique, on a quand même un des marchés les plus chers au niveau des télécoms. Je
Oui,
parle pas
mais
seulement
ça
mobile.
t'imagine la marge qui leur reste. C'est énormissime. Si on calculait le base, en l'occurrence mon abonnement data, un de mes abonnements est chez base. Pour eux, c'était 500 mégas ou 400 mégas, je me souviens plus, pour 8 euros. Je pense que c'est ça.
Oui.
Et donc c'était 0,016 euros, donc 1 cent et demi par méga. Et en fait, quand on dépasse les 500 mégas, c'est la première fois que je l'ai fait le mois passé, on se prend un SMS de base, ils disent « Ah, vous allez être facturé, attention, au secours !» Je regarde, oui, combien? Un cent 6, en fait, ils continuent à facturer sur le même tarif que le début.
Et quand
Donc,
tu penses
comparé aux
qu'alors, oui.
50 cents, c'est quand même, allez, 40 fois supérieur.
Oui, mais quand tu sais que normalement le coût en roaming hors offre privilégiée, c'est 3,5 € le méga,
Oui, je suis d'accord que c'est un
c'est du vol
bon...
manifeste, quoi. Donc saluons déjà quand même
Saluons les
s'il y a
petits
encore,
voleurs par rapport aux gros voleurs.
voilà, même s'il y a quand même moyen de faire beaucoup plus d'efforts. Je ne crois pas qu'un jour on va arriver à payer notre abonnement data européen à un coût harmonisé. Je pense pas qu'on verra ça de notre vivant, quoique. Enfin, faudrait qu'on vive longtemps.
Quoique, quand on regarde l'SMS que l'Europe a imposé, l'SMS, c'était l'histoire des vacances de l'année passée, je pense, ou juste avant les vacances, qu'ils ont imposé un prix maximum en roaming. Le prix roaming était inférieur à ce que certains abonnements chez
Opérateurs
nous
faisaient en local,
en
absolument.
local. Donc, si l'Europe met de nouveau les pieds dans le plat en disant, dites les gars, si un jour on veut se développer, avoir quelque chose, une industrie du mobile avec des services mobiles où les gars, où on n'a pas peur de traverser la frontière en utilisant Google Maps, la navigation, et pour se faire taxer en traversant la France de 200 euros pour avoir osé utiliser un service en ligne, un jour l'Europe finira, on l'espère, par harmoniser ses tarifs et frapper du poing sur la table.
Oui, mais évidemment, l'idéal serait le jour où on pourra payer un abonnement mensuel à 10 euros et avoir, je sais pas moi, 5 gigas ou 10 gigas valables partout en Europe.
Ne sois pas si pessimiste, ça avance tellement vite au niveau de télécom. À l'époque, il n'y
Oui,
avait
je
même pas
sais, je me
de...
rappelle mon premier abonnement, on payait 10 fois plus pour avoir 10 fois moins.
Voilà, la 3G n'y était pas encore. Maintenant, on aura quand même un jour aussi le WiMAX peut-être en Europe. Sauf que, enfin, si ça veut bien traverser nos frontières. D'ailleurs, j'ai un petit coup de gueule. J'ai vu que j'ai appris hier le Samsung Galaxy S2,
Oui,
journal mobile, qui
oui.
est annoncé partout avec du NFC. Il est vendu en tout cas en Corée depuis quelques jours avec NFC.
Et en
Il
Europe,
débarque.
il sera sans NFC.
Donc voilà, on a le même mobile. Même nom, et pourtant les composants sont différents.
Ça ne te rappelle pas un certain netbook Samsung avec et sans 3G, ça?
Oui, c'est frustrant.
C'est très frustrant, hein.
C'est frustrant parce qu'on en parle, vous prenez une review, maintenant tout le monde lit ça dans les tests du monde entier, vous regardez les gens qui l'ont acheté, qui l'ont importé, oui, c'est magnifique que mon Galaxy S2 qui vient de Corée et qui fait le café. Eh ben non, bon, évidemment, le NFC, on est encore loin de l'utiliser tous les jours, mais. Voilà, je comprends pas. Pas merci Samsung de supprimer des fonctionnalités pour traverser la frontière.
Marketing, quand tu nous tiens.
Après mobile, on revient. Bon, on en parle beaucoup des tablettes, mais c'est quand même assez chaud. C'est
Mais
début
là,
d'année.
maintenant, t'en as une, donc tu peux en
J'en
parler en
ai une,
vrai.
j'ai joué, je l'ai touché, j'ai fait tout ce qu'on voulait avec. J'ai été dans toutes les pièces de la maison.
Magnifique, dans toutes les positions, les pieds en l'air et tout.
Tout à fait, c'était
Absolument.
magnifique.
Et qu'est-ce qu'elle raconte?
Elle raconte, alors c'était une Acer la 500. Donc le
Oui.
test arrivera cette semaine sur le site, probablement peut-être même avant ou le même jour que le podcast, donc on verra.
Des heures
C'est-à-dire,
super en perspective, ça.
non du tout, l'article est écrit, je dois juste le publier, refaire les photos.
D'accord.
Et donc on arrive à cette A500 où bah, je la lance comme un brave, je vous racontais quelques anecdotes, c'était assez amusant. Pour une fois je la mets en français parce que je me dis allez, je ne serai pas tout seul à l'utiliser, madame peut-être, je vais pas faire le gros geek qui veut tout en anglais. Je le mets en français. Deuxième dialogue, qu'est-ce qu'on voit sur le français? Des grosses fautes d'orthographe, un combo box où le texte est coupé en plein milieu parce qu'ils n'avaient pas prévu que le texte en français était plus grand qu'en anglais. On dit ok, ça commence un petit peu mal, mais soit, on continue à l'installer, ça fonctionne plus ou moins bien, ça un petit peu lourd, mais comme l'iPad d'ailleurs que je trouvais lourd, elle est encore quand même vachement trop lourde pour une utilisation en tout cas à longue durée.
C'est vrai, je peux témoigner qu'à bout de bras, les deux, vous tenez pas une heure avec les deux les bras tendus. Hein.
Oui, c'est assez horrible. Donc, la petite tablette, très sympa. On cherche quelques livres, on lit un petit peu, on la redépose sur le bureau, on l'éteint, on la laisse en stand-by, on travaille sur autre chose, et puis qu'est-ce qu'on voit? Tiens, elle s'allume. Et en fait, elle joue stroboscope. Alors, j'ai vu des dizaines de gens qui râlaient sur les forums. Ce serait lié à un problème avec le Wi-Fi, et que quand on coupe le Wi-Fi, on a droit à une tablette qui reste éteinte. Acer n'a pas encore de solution officielle. D'ailleurs, pour eux, ce n'est pas encore un problème. Pour ceux qui se plaignent chez Acer, disent renvoyez-les-nous, c'est une erreur. Sauf que bon, j'ai vu un topic en tout cas sur les gens qui se plaignaient. Il y avait déjà plus d'une centaine de personnes qui avaient tous le même problème. Donc ça sent quand même le gros bug software qu'on espère qu'ils corrigeront rapidement parce que stroboscope dans la nuit, j'ai pas envie de dormir dans une boîte de nuit, quoi. Donc ça c'est quand même un gros point noir. L'autre point noir c'est l'alimentation. Moi je reste assez déçu que cette alimentation n'est pas sur le port USB. Tu m'avais donné une explication que effectivement en question puissance on n'y est pas. Bah a priori si c'était juste un port USB qui mettait sur un transfo AE, il pouvait la donner cette puissance et avoir une puissance inférieure quand on la connecte au PC. Bon bah faut croire qu'ils préfèrent quand même mettre leur transfo à eux. Je trouve ça pénible. On est obligé d'avoir toujours ce transfo plutôt que d'avoir le même transfo qui fonctionne avec le téléphone, le GSM, le GPS, la tablette et tutti quanti. Mais non, voilà, on est obligé d'avoir les 36 transfos avec.
Évidemment, je suppose que pour le chargement via port USB, c'est comme toutes les tablettes de ce style-là,
Ça
il en
marche
faut un
pas.
port USB qui débite du 10 watts.
Ça marche pas.
Voilà. Et donc tous les ports USB qu'on a classiquement qui débitent du 5 watts, on l'a là où le
Pourtant.
soleil ne brille pas. Voilà, exactement. Même chose avec
Pourtant.
l'iPad.
Oui, donc c'est assez désagréable. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, en dehors de ça, je veux quand même dire, la tablette, c'est un plaisir à utiliser, hein,
Claire.
mais il faut savoir quand même tous ces petits problèmes avant de l'acheter. Dans la boîte, vous oubliez tout ce qui est housse de protection, vous êtes obligé d'en acheter une par vous-même. Si franchement, quand vous l'avez en main, vous êtes, enfin, moi en tout cas, la première chose avant de sortir de chez moi, je voulais une housse pour ne pas me prendre la poussière, la pluie ou que sais-je qui pouvait encore tomber dessus. La housse officielle, c'est quand même plus d'une cinquantaine d'euros. Ça fait mal, de nouveau. C'est encore un autre petit détail technique. Qu'est-ce qu'on avait encore eu comme problème? Oui, chouette, j'ai 32 gigas la tablette. On se dit, c'est génial, quand même. J'ai de quoi y mettre toute ma vie. J'y mets toute ma vie, justement. J'y mets plein de choses. Je me dis, génial, j'aurai de quoi lire pendant au moins une dizaine de vies. Et puis, je commence à installer quelques applications. D'ailleurs, les widgets, bah, on sent qu'on est encore un petit peu au début des tablettes Android. Parce que ces tablettes, les widgets, le calendrier, bah, il fait 2 cm sur 3. On voit deux événements en tout et pour tout. Et si vous voulez autre chose, eh ben non, c'est con, il n'y a pas, en tout cas pas chez Google. Mais ils sont en train de travailler sur ces widgets, mais bon, ces tablettes sont publiques maintenant. Donc monsieur tout le monde, il s'attendait peut-être un peu mieux juste pour ça. Donc vous avez d'ailleurs, on a 5 écrans d'accueil en 3D, ça c'est assez sympa. Sauf que quand on passe d'un écran à l'autre, les effets de rafraîchissement, en fait, on voit que le widget se rafraîchit là où il était en 2D, et hop, il y a un petit effet qui repasse en 3D. Enfin, c'est assez horrible à regarder, je sais pas si vous avez compris, mais on
Non,
voit que aussi.
je peux confirmer pour l'avoir vu, c'est assez. En fait, vous avez un bel effet de ghosting, quoi.
Oui, c'est assez horrible. Bon, bah, ça aussi, ça va être corrigé, on peut l'espérer. Et alors, le dernier bug, vraiment frustrant. qui m'a fait perdre plus d'une heure en semaine, où elle a failli voler par la fenêtre, c'est que 32 gigas, bien rempli, il reste à peu près 3 gigas de libre, je vois une nouvelle application, je me dis, allez, go, j'installe Angry Bird. Ben oui, bon, j'avais pas encore installé, tout le monde me dit que c'est bien, je voulais essayer aussi. Et échec. Bon, échec, bon, c'est un petit peu léger comme erreur, ça donne pas beaucoup d'infos, pas de log, pas de
vraiment juste échec, rien d'autre.
Oui, échec de l'installation.
Bon, bah, cool.
Voilà, on peut chercher échec de l'installation. En plus, si on cherche l'erreur en français, on a peut-être déjà quoi, une cinquantaine à l'avoir acheté. Je me dis, ben, ok, personne n'a encore le problème. Effectivement, personne n'a le problème, sauf des gens qui ont téléphone mobile. Je creuse. J'arrive déjà très très loin dans ma cave. Et finalement, je vois un gars qui dit sur son GSM, c'est quand il n'a pas assez de mémoire. Je dis, bon, je commence à faire quelques essais. Et en fait, oui. Quand on n'a plus 4 gigas de libre sur la tablette, échec, on ne peut plus installer. C'est fun, non?
Magnifique. Donc en fait, il faut en permanence garder un buffer libre de 4 gigas. Et c'est pour mettre quoi? Donc en fait, la tablette, l'OS prévoit qu'il doit avoir un buffer de 4 gigas pour pouvoir stocker quoi? Des données,
je ne sais pas.
Un registre, je ne sais pas.
Une copie de la mémoire, un swap disque, je ne sais pas ce qu'il en fait. Mais il considère qu'il a besoin de 4 gigas. Et il vous le dit clairement. Ah ben non. Il vous le dit. Échec. Bien, c'est un petit peu cryptique. Je veux dire que je n'ose pas imaginer le nombre de gens qui vont téléphoner au support pour dire que je ne sais plus rien installer sur ma tablette, qui vont réinstaller toute leur tablette, ils vont dire oui, ça remarche. Et dès qu'ils vont de nouveau arriver à 28 gigas d'occupés, hop, on est reparti. Échec. Donc ça va être un... J'espère qu'il y aura amélioration, en tout cas dans le reporting de l'erreur de « vous avez intérêt à libérer de la place », sinon c'était assez pénible. Donc ça, c'est le petit rapport de problème. Sinon, la tablette, c'était quand même le pied intégral. Je l'ai pris dans plusieurs endroits où je m'emmerdais en général. J'ai pris le train, j'ai été chez le médecin, j'ai été... Donc en une semaine, je me suis bien amusé. Et j'ai eu le temps de lire plein de BD, écrire des textes. Ça, c'était assez responsif. Je ne sais même pas si c'est français, mais...
Réactif, allons-nous.
Réactif, merci pour la traduction. Réactif pour taper du texte, c'était assez sympa. Ça manque juste d'applications offline pour éditer des documents type document Word. Il n'y a pas encore d'application officielle, même s'il y a une application...
Ça va sûrement arriver, hein.
Non, non, j'y pense pas. Je pense qu'il y a des applications commerciales qui existent, mais en application Google, ils viennent de sortir tout juste une Google Doc, et elle ne fait qu'un mode online, il n'y a pas de mode offline encore. Mm-hmm. Donc bon, on n'y est pas encore.
À coupler avec les abonnements data gratuits qu'on aura peut-être bientôt.
Oui, mais bon, quand on est à l'étranger, on l'a pas toujours. Et d'ailleurs, à ce propos, pour les applications, où il manque une bonne application Office, il y a pas mal d'applications qui sont encore avec un look and feel téléphone.
Oui, et, c'est normal. Il faudra leur temps de les... Il faut leur donner le temps de s'adapter et... Même si normalement, il aurait déjà dû avoir quelques applications de base. Maintenant, ouais, faut pas rêver, hein. La situation à la sortie de l'iPhone, la sortie de l'iPad, pardon, elle était sensiblement identique. Au début, quand il s'est lancé, les premières applications, elles couraient pas les rues. Maintenant, des applications, il y en a quasi 100 000 et, il y en a qui s'adaptent tous les jours et de plus en plus d'applications s'adaptent aussi bien sur iPhone que sur iPod, que sur iPad, que sur n'importe quoi. Et voilà, donc...
Ça va être un problème assez important à gérer dans les prochaines années, aussi bien pour Google que pour Apple. C'est la fragmentation. Enfin, quoique Apple, ils n'ont pas trop de problèmes. Ils ont moins le problème. C'est que la fragmentation des devices qui sont supportés par leur OS, quand on voit un pauvre petit développeur qui fait un Angry Bird et qui doit faire son graphisme qui fonctionne sur une tablette en 1024, sur un GSM qui fait du 320x240, ben il faut l'avoir prévu, hein, tous
ces
menus.
C'est du vectoriel.
Oui, mais les menus, on peut pas mettre autant de boutons en 320 que sur une tablette.
Et c'est pour ça qu'en fait, la décision que Microsoft avait pris d'imposer des réglementations et des spécifications techniques assez draconiennes pour les appareils qui allaient faire tourner Windows Phone 7, elle était quand même relativement bien pensée parce que ça permet de conserver un contrôle beaucoup plus poussé sur le matériel.
Oui, je pense que Google y a certainement pensé. Et qu'on arrivera à ce type de spécifications minimales pour faire tourner les futures tablettes en Android. Sinon, ça va créer des cheveux blancs à pas mal de développeurs.
J'imagine.
Donc voilà, ça c'était un premier tour sur Nécombe. Si vous en avez une que vous êtes content ou pas, n'hésitez pas aussi à nous le dire et à partager vos expériences. Autre sujet brûlant du moment.
Sony.
Ah oui, tu le voyais venir, hein?
Ah, ça, je le voyais venir, c'est clair. J'ai. Bon, Sony, allez, je vais le dire au risque de m'attirer les foudres d'une grande partie de la population. Eh ben, bien fait pour leur gueule. Franchement, bien fait pour leur gueule. Voilà, c'est
Allez,
dit,
tu
c'est
peux
mon avis,
expliciter pourquoi t'es
je
pas
peux
content?
expliciter. Alors, Sony, avec tout le respect que j'ai pour cette firme, avec tout le respect que j'ai pour leur innovation technologique, Sony a toujours été synonyme d'une firme quand même relativement stable,
Oui, le
solide,
mémoristique aussi est
innovante,
effectivement une
mémoristique.
très bonne idée.
Oui, Google TV aussi, mais là on va plus se faire inviter du tout, c'est s'il nous entend, on est mort. Sony, avec la PS3, à partir du moment où la PS3 a été jailbreakée, on peut dire raisonnablement que Sony a pété un câble, mais pas dans le bon sens du terme. Alors, globalement, le problème, il est où? Bon, on ne doit pas commencer à blâmer les ingénieurs de Sony. Après tout, Sony à l'époque avec BMG, ils avaient développé le fameux rootkit qui s'enregistrait sur toutes les machines à l'insu du plein gré de leurs utilisateurs. C'est pas la faute des ingénieurs, c'est pas la faute des développeurs, c'est pas eux qu'il faut blâmer. Mine de rien, ils ont quand même réussi à designer une console qui a tenu 4 ans, en partie par manque d'intérêt, mais quand même, avant d'être piratée. Le problème, il est au niveau du management, il est au niveau de la direction de Sony, qui a déclaré vraiment une guerre ouverte au piratage, qui se sont blindés dans une attitude en se disant, oui, c'est impossible que quelqu'un un jour réussisse à pénétrer dans la forteresse qu'est Sony, et en même temps, en se plaignant du piratage, du manque à gagner, de tout, en faisant leur gnan gnan gnan, et en continuant à engager des armées d'avocats pour taper au bazooka sur le moindre truc qui bougeait, plutôt que d'engager des développeurs valables, des ingénieurs valables, pour améliorer la sécurité de la console, pour en faire un outil beaucoup plus intuitif, beaucoup plus agréable à utiliser et un outil beaucoup plus ouvert.
Bon, c'est dur parce que dans tous leurs ingénieurs, je suis sûr qu'ils en ont de très
Il y
très
en a
bons.
qui sont excellents, je suis d'accord. Mais il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que se mettre à dos une communauté de hackers, qui compte dans ses rangs quand même des pointures aussi costauds que GeoHot ou Graf Chocolo, qui sont quand même des pointures de renommée mondiale au niveau du hack PS3, mais fallait pas le faire. Et quelque part, ce qui se prête aujourd'hui, ben c'est un retour de bâton qui est un peu un juste retour des choses. Maintenant, il y a quelque chose qui est fondamentalement lamentable dans la manière où ce truc s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, avec le piratage du PSN, il y a 2 200 000 cartes de crédit qui sont dans la nature à vendre telles quelles. Si vous avez un
Oui,
jour, cher
effectivement,
auditeur, donné votre numéro de carte de crédit sur le PSN, il y a des bonnes chances que votre numéro de carte de crédit se retrouve dans cette liste. Donc, pensez à la
le
faire bloquer.
PSN, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est
C'est
le
le PlayStation
PlayStation
Network.
Network.
C'est
Ça
le.
permet de jouer en ligne avec votre PlayStation.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, certains pirates ont même poussé l'ironie jusqu'à offrir à Sony de leur revendre la base de données contenant les 2,2 millions de cartes, et que si Sony déclinait l'offre, eh bien simplement le fichier allait être mis en vente au plus offrant.
Ouais, mais c'est bon, c'est pas la première fois qu'ils ont des gros problèmes, hein.
Oui, l'histoire des
L'histoire avec les
batteries.
batteries, ça a quand même été horrible à gérer, certainement pour leur département presse et marketing. Ils ont dû avoir pas mal de gens qui ont volé à la porte et d'autres qui ont eu des longues soirées. Ici, c'est certainement un peu pareil, à part que pire que ça, enfin, ils ont tué personne, contrairement aux batteries, il y a quand même eu quelques blessés, même ici, il y a des joueurs qui se trouvent depuis plus d'une semaine sans la possibilité de jouer en ligne, alors qu'il y a certains jeux qui ne fonctionnent qu'en ligne. Et
Absolument.
on a payé pour et on a envie de jouer. Et ça fait les choux gras de Microsoft, évidemment. On a vu, j'ai bien rigolé, mais il y a des groupes Xbox officiels sur Facebook et autres où Microsoft qui n'a pas l'air en tout cas, d'avoir une communication trop régulière à ce sujet, postait ce week-end bon amusement sur la Xbox avec la Xbox Live. Donc il y en a certains qui jouent un petit peu et qui doivent se frotter les mains des problèmes de Sony en attendant le retour de PSN, parce que maintenant ça fait depuis plus d'une semaine.
Ça fait quasi depuis 10 jours, et il ne faut pas oublier non plus que non seulement PSN, mais c'est aussi Curiosity qui est down.
Oui, Curiosity, faut peut-être aussi expliquer ce que c'est.
Alors, Curiosity, en fait, c'est la plateforme que Sony a mis en place pour diffuser son contenu en réponse à iTunes, en réponse à toutes les plateformes de
Il est
diffusion.
disponible en Belgique, au fait, parce que...
Ah bon?
Derrière
Non,
nouvelle. Je sais pas si c'était une question. Je
non,
pense
je ne
pas, hein.
pense pas. Je crois que pour l'instant, il est toujours limité à l'Asie et aux États-Unis. On avait essayé d'avoir des infos sur la release de Curiosity et l'ouverture officielle lorsqu'on avait participé à la dernière conférence de presse Sony, où la charmante attachée de presse nous avait dit avec un grand sourire « Désolé, secret d'État », en gros. Donc non, on n'en sait rien. Ça m'étonnerait qu'elle soit déjà active en Belgique, et si elle l'est, ben, elle n'aura pas été longtemps. Maintenant, moi, je voudrais revenir rapidement sur deux petits trucs quand même par rapport à cette histoire. Sony, on les connaît aussi pour avoir été les champions en toute catégorie du DRM, les avoir foutu du DRM absolument partout dans les ils avaient même pensé mettre des DRM dans les jeux pour contrer le phénomène du piratage. Et donc, c'est assez hallucinant de se rendre compte que derrière ça, les données du PSN sont en clair. Les données
Oui.
qui vous caractérisent dans la PSN, sur le PSN, les données qui vous caractérisent, vos données sur la console, elles sont stockées en clair. Et pire, et là je reprends un article que j'ai vu passer sur un blog. Attends, laisse-moi lire le truc, et c'est
Alors
assez
là,
intéressant. Laisse-moi
je
finir.
l'ai vu.
The really disturbing part of this is that the details of the banking actually include the CVV security in clear. Donc ça veut dire que non seulement ils stockent votre numéro de carte de crédit en clair sur la console, mais ils vont jusqu'à stocker le code CVV qui valide votre numéro de carte. Alors ça, franchement, c'est de l'inconscience pour moi.
La carte de crédit, j'ai cru comprendre qu'elle était encryptée en tout cas, mais bon, là j'ai, on n'a pas. La réponse officielle, et je ne suis pas sûr que qu'ils aient quand même pas un petit peu poussé la sécurité de ce côté-là. Par contre, ils se sont fait descendre en flamme dans pas mal de forums, évidemment, qui sont un petit peu anti-Sony pour le moment à cause de leurs actions légales, mais ils se sont fait descendre en flamme parce que Sony n'avait pas crypté toutes les données de votre compte, savoir nom, email, âge, etc. Et en fait, je trouve ça assez débile parce que, en tant que programmeur, Si de toute façon ils sont sur une plateforme où ils ont besoin d'utiliser ces infos, ils en ont besoin, Sony, sur leur plateforme, ils ont besoin de savoir votre nom, ça sous-entend que cette plateforme sait décrypter cette info. Donc si la plateforme sait décrypter l'info et que le hacker est rentré sur la plateforme pour avoir la base et les sources et les scripts qui utilisent cette base, ben le cryptage est nul. Parce que la clé de décryptage est quand même contenue sur le système. Donc bon, ben le cryptage, ça permet juste de dire, allez, on va lui rajouter 15 jours au hacker pour qu'il trouve les infos, mais en attendant, les infos, il les aura toujours. Donc c'est bon, je trouve ça assez injuste parce qu'il n'y a pas de système totalement efficace de ce côté-là, sauf des systèmes de hashing.
Le système parfait n'existe pas, mais on aurait pu déjà travailler avec un système un peu plus robuste qui comporterait une clé publique sur la console et une clé privée du côté du serveur PSN. Même ça, apparemment, ils n'ont pas fait. S'ils se sont contentés d'un cryptage au niveau de la console, c'est le genre de cryptage élémentaire que n'importe quel hacker un peu doué peut claquer en un quart d'heure.
Et en attendant, la console est restée non piratée pendant 4 ans, donc.
Oui.
Voire plus. Donc, bon, aucun système n'est parfait, et je leur jetterai pas la pierre d'un point de vue technique, certainement pas. D'un point de vue commercial, ça c'est clair qu'il y a eu quelques problèmes à gérer leur crise. Donc, il restait encore un gros sujet, mais bon, on le remettra fin de la semaine prochaine.
On le remettra au prochain podcast. Parce que c'est un truc sur lequel on peut dire beaucoup et on vous est déjà assez saoulé comme ça.
C'était l'extension de garantie et d'ici là, on aura certainement encore plein d'autres news. Dans les brèves du moment, il y a, en dehors de la sortie Ubuntu, il y a Nokia qui a licencié
3000 personnes.
4
Non,
000, non, 4
4000 plus les 3000 de Symbian
tout
qui
à
partent chez
fait.
Accenture avec Symbian.
Avec Symbian, donc c'est quand même assez étonnant,
Oui,
mais
effectivement, une boîte de consultance IT qui va reprendre un OS. Oui, pourquoi pas après tout.
tout à fait. Et puis dans les autres grosses news, YouTube a racheté Delicious.
Les fond non, deux fondateurs de YouTube ont racheté
Oui.
Delicious, donc c'est pas forcément YouTube en tant que tel qui a.
N'empêche.
Ah tiens, je reviens vite 2 secondes. Je vois une news à l'instant sur GX Mod, le forum consacré à la Xbox, la PS3, etc. machin, qui dit que Sony tiendra une conférence tout à fait officielle sur le piratage du PSN suite à une demande des députés américains, britanniques, australiens et chinois. Donc
Donc ça va faire mal à Sony, hein.
ça commence à chauffer, oui.
Ils vont avoir une grosse marque sur les fesses, hein.
Voilà, ça va être pampan cucu à la grosse godasse, quoi.
Pour recombiner tous les sujets du jour, je sais pas si tu as vu, je pense que je suis quasi sûr que tu as vu, l'annonce de Sony sur ces tablettes PlayStation Android qu'ils ont annoncées.
S1, S2?
Oui, tout à fait, qui avaient l'air sympa et qu'ils ont d'ailleurs annoncé juste avant de faire d'envoyer les emails de attention, le PSN a été piraté.
Ouais.
Donc ils ont fait vraiment très attention à leur agenda, mais elles ont l'air sympas, hein, les tablettes.
Elles ont l'air sympas, surtout le modèle repliable qui évoque furieusement le prototype courrier de Microsoft que j'avais toujours trouvé extrêmement sympathique.
Mais qui n'arriveront pas avant la fin de l'année, si je me
exact.
Souviens.
Exact. On parle de début Q4, si je me rappelle bien.
Tout à fait. Ou fin.
Ou même
début
carrément
2012.
Début 2012, oui.
Ouais.
Enfin bon,
Voilà.
écoute, je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui parce qu'on a quand même déjà pas mal déblatéré et il faut en garder un peu pour les prochaines fois.
Oui, et puis ils sont tous morts devant leur PC, ils n'ont pas écouté jusque-là.
Probablement. Alors de toute façon, bon, ben, voilà, donc c'était Clandestino et Sion et on vous dit à la prochaine, les potes.
Rendez-vous dans le 5e déjà.
Dimanche, élément, non, même pas. Oh, il est pourri, mais bon, c'est le samedi soir, les mecs. Allez,
à
ciao
plus
tout le monde.